Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut Cénociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui, malgré des attaches natives fermement ancrées à l'ouest, n'a jamais boudé le charme lascif des contrées du sud, notamment lorsqu'elles produisent un cinéma aussi chouette que celui que régulièrement on trouve chez nos cousins espagnols, dont l'un des plus fiers représentants actuels est certainement Alex de la Iglesia. Et ça tombe bien, son nouveau film El Bar, pris au piège en VF, est tout juste dispo en VOD uniquement, malheureusement, mais c'est déjà ça de prix. Et on va, quoi qu'il arrive, en causer et remonter le film de sa riche filmographie en compagnie des trois piliers de la critique réunis ici à l'antenne Paris. Yannick Daron, salut Yannick.
Salut.
Stéphane Moïse. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Alexandre Arbeau. Salut Alex.
Hola, buenos días.
C'est nos ciné épisode 96 et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Oh merde. El Bar, comme son nom.
Mierda,
comme tu dis. Ouais. Comme le nom du film l'indique, ça se passe dans un bar. Parce que oui, moi aussi, j'ai fait espagnol LV1, mais je crois que c'est le cas de tout le monde autour de cette table. Un bar de Madrid, précisément, où sont attablés quelques habitués dont le quotidien va exploser en même temps que la tête d'un d'entre eux qui a le malheur de prendre une balle en pleine tronche en ouvrant la porte du troquet. Résultat, toute la troupe se retrouve cloîtrée dans le bar dont elle n'ose plus sortir et ça ne va pas aller en s'améliorant.
Otra cosa que pueda haber pasado, que mira que no la quería decir, es que los hayan abducido. Esto es muy fuerte, de verdad.
Voilà, ça y est, c'est histoire de se mettre dans le bain linguistique, mais on avait déjà bien commencé de ce point de vue-là. Avant de remonter, donc, comme je le disais, le fil de la filmo d'Alex de la Iglesia, quelques mots sur El Bar. Qu'est-ce que vous en avez pensé, messieurs? Alexandre, je me tourne vers toi en premier.
Alors,
Alexandre qui est all suave and shit, il faut le dire.
Ouais,
même,
il a
ses lunettes de soleil et sa clope, là, on se croirait sur un plateau d'Ardisson, quoi.
Effectivement, Ardisson.
Nous enregistrons en extérieur, c'est pour ça.
Non, El Bar, comme la plupart des films d'Alex de la Iglesia, commence très bien, avec une mise en place hyper maîtrisée, parce que c'est quand même un film choral, majoritairement huis clos, et avec une galerie de personnages multigénérationnels, bref, des piliers de comptoir comme des gens un peu plus apprêtés. Donc j'ai été vraiment très fan de l'installation du film, et j'avoue avoir été un poil déçu par son... À partir du deuxième tiers, en fait, il y a toujours cette folie ambiante qu'on trouve dans tous ces films, mais il m'a un poil perdu. Et au-delà de ça, je sais pas, j'ai pas été autant chaque personnage et la façon et la mise en scène m'a contenté. J'ai pas constaté de baisse de régime à ce niveau-là en voyant le film. Autant je m'attendais à quelque chose de plus satisfaisant, percutant et original sur le point de vue du scénario. Je vais essayer d'en parler sans spoiler, mais truc très con, par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'action se passe en plein centre de Madrid, voilà, dans un quartier populaire, milieu urbain, et en fait, nos personnages sont isolés dès le départ, donc parce que voilà, ils n'osent pas sortir du bar de peur de se prendre une balle d'un sniper inconnu pour une raison qu'on ignore au début. Et toute cette justification là est un poil nébuleuse à mon goût. Il y a dans toute la filmographie d'Iglesias, dès son premier film Action Mutant dont on parlera tout à l'heure, il y a énormément de raillerie sur les médias et la télévision en particulier. Il a bossé lui-même dans la télévision, il a été décorateur sur des émissions, etc. Bref. Et donc ça transparaît dans toute sa filmographie. Gros foutage de gueule à juste titre de la trash TV, etc. Et dans ce film là c'est un peu en sourdine, mais il y a quand même cet aspect, les médias racontent n'importe quoi, on nous ment. Alors là en l'occurrence c'est pas vraiment eux qui font l'action, ils sont plutôt complices d'une hypothétique opération couverture du gouvernement, voilà, etc. Où en gros l'action les spectateurs ne savent pas en regardant les chaînes d'infos ce qui se passe vraiment dans le centre de Madrid. Il y a une opération, voilà, couverture, on fait brûler des pneus pour faire de la fumée. Et c'est au sens, voilà, c'est un symbole, mais littéralement, il y a un écran de fumée et on ne peut pas savoir ce qui se passe vraiment en regardant la télé. Et comme la fin du film, elle reste sur cette tonalité-là, il y a un petit relent qui, moi, m'a un poil chagriné, mais c'est parce que c'est dans l'air du temps. un petit rôle un peu complotiste, genre « Hey, fake news !» Alors, c'est peut-être un réflexe corporatiste journaleux de ma part. Mais,
journalope.
Journalope, même, on peut le dire, gauchias. Mais ce qui passait sans problème dans ses précédents films, quand il brocardait la télévision de divertissement, et c'était le cas notamment dans son dernier long métrage, Migrant Noche, qui se passe pendant l'enregistrement d'une émission de réveillon de fin d'année. Là, c'est peut-être le fait de l'avoir vu juste après avoir vu une énième logorée de Donald Trump, qui serait d'ailleurs un merveilleux personnage de la Iglesiesque, une énième saillie de Trump contre CNN, où il balançait sur Twitter une vidéo où on le voyait en train de tabasser symboliquement CNN, etc. Même si je pense pas que la télé soit devenue maintenant une vache sacrée qu'il faille épargner par les critiques, au contraire, mais j'ai l'impression que de la Iglesia, là, sur le coup, c'est sans doute un problème de timing, et peut-être que quand je reverrai le film un peu plus tard avec d'autres choses en tête, ça passera mieux. Mais là, j'ai été un poil dérangé par ce côté on hurle avec les loups, délire un peu complotiste, etc. C'est pas quelque chose de non plus fondamental dans le film, c'est pas quelque chose qui gâche totalement la vision du film. Mais moi, c'est comme ça m'a quand même un poil chagriné.
C'est même en retrait quand même, hein, moi je trouve.
C'est très en retrait, mais c'est très en retrait. Mais
j'aimerais bien rebondir par rapport à ça, parce que c'est marrant, là-dessus, je l'ai pas. Je suis d'accord avec ton analyse, c'est moi, pour dire vite fait, moi je suis un inconditionnel d'Alex de la Iglesia, que je considère être comme un des plus grands réalisateurs à l'heure actuelle. Enfin, en tout cas, ses débuts, il l'était, c'est évident. Juste par rapport à ça, avant que je complète ce que je voulais dire, moi j'ai pas du tout vu, contrairement à beaucoup de ses films, hein, une charge contre les médias.
C'est très ténu.
Oui, non, mais comme tu dis, même si c'est peu dans le film, il y a quand même un regard par rapport à ça. Là où moi, justement, j'ai eu l'impression que c'était la bascule. J'y ai vu, moi, ce qu'il voulait y faire, selon moi, qui était au contraire la bascule vers le spectateur aujourd'hui et vers les réseaux sociaux. Et t'as l'impression de voir que tout le film, en tout cas une bonne partie au début, est comme un fil de Facebook, avec chacun qui va de son interprétation délirante, chacun qui va de la contestation de ça, et puis ça brille en paranoïa, ce qui est la caractéristique de tout ce qu'on dit quand on chie sur les réseaux sociaux. Donc moi, j'ai plus l'impression que c'était ça son sujet que les médias établissent. C'était plus, je te visualise un fil Facebook qui part en sucette avec 5 personnes qui n'auraient rien à faire ensemble, et c'était le principe d'ailleurs au début. Ils arrivent, ils ont fondamentalement rien à faire ensemble. Bon. Moi aussi j'ai été déçu par le film par rapport à mes attentes sur Alex de la Iglesia, et encore une fois pas par la mise en scène, parce qu'il y a même 2-3 petits plans qui sont super brillants dans la façon de gérer la scénographie avec je sais pas combien de personnages, mais ils sont bien 6 ou 7 à l'intérieur, qui sont quand même relativement bluffants. Moi j'adore Alex de la Iglesia, d'abord parce que, au-delà même de la charge contre les médias qui est présente dans tous ces films, c'est une charge contre la morale, c'est une charge contre l'éthique triomphante, c'est une charge contre la chape de plomb morale de nos sociétés, et ça depuis le début. Donc c'est un type qui est vraiment subversif dans ce sens-là, et sarcastique et cynique aussi par moments, et qui rentre dans l'art de tout ce qui est un dogme actuellement. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui me plaît beaucoup, c'est que c'est un mec qui a une cinéphilie monumentale, et du coup réinvestit. Alors c'est même pas qu'il investit des genres, c'est qu'il en prend des fois au sein d'un seul film plusieurs genres qu'il va traficoter à sa sauce. On se rappelle encore Les Sorcières de Zaracamonti, comment ça démarre,
braquage,
comment ça
se redémarre, voilà,
ça se termine. Dans celui-là, c'est clairement le survival, et tout le final est d'ailleurs fait de cette manière-là. Alors, ce qui m'emmerde, une des raisons qui m'emmerde, c'est que je trouve qu'il n'en dévie pas tant que ça, en réalité. Là où je m'attendais, moi, de la part de la Iglesia, qui me retourne le cerveau par rapport à ces codes-là, par rapport à ce genre-là. Et puis, la troisième chose qui est peut-être la plus fondamentale, et en réalité, plus en termes narratifs, hein, qu'autre chose, c'est que derrière l'hystérie, entre guillemets, carnavalesque qu'on lui reproche, qu'on a pu lui reprocher, ou qu'on peut admirer, et que j'ai adoré, moi, dans plein de films, cette folie qui fait partir chacun de ses films dans tous les sens, il y a toujours une énorme et profonde humanité. On a toujours une scène de bascule fondamentale où on est touché, même des fois par le personnage le plus antipathique qu'on ait pu imaginer au départ, au-delà des gueules qu'ils ont, parce qu'il y a toujours la bassesse humaine dans les films de Alex de la Iglesia. Donc moi, j'étais pas surpris d'avoir ces vieilles-là qui ont une sale gueule, qui se comportent comme des enfoirés pendant tout le film. Ça c'est génial. Tu l'as déjà dans Mes Chers Voisins, tu l'as dans tout ça. Mais c'est toujours contrebalancé par une profonde humanité. Moi, mon meilleur exemple dans toute la filmographie, c'est cette humanité incroyable qui transparaît dans Balade attristée, qui est pourtant un film qui part en sucette à certains moments de manière hystérique. Et là, ça n'y est pas. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé tout ce film comme un ride rigolo où j'espérais une ironie finale, une mise en perspective de son sujet, la menace dont tu parles qu'on ne peut pas évoquer. Pour moi, c'était un leurre. Quand elle arrive, c'était un leurre évident. Eh ben non, en fait, ça l'est pas. Et c'est vraiment ça son truc. Et jusqu'au bout, c'est ça. Et j'étais là, c'est tout.
Je finis juste
et je te laisse pas parler. Je m'en serais foutu de ça. S'il y avait eu cette humanité dans les persos, et ça m'avait apporté quelque chose. Sauf que, ils sont tous plus, entre guillemets, désagréables les uns que les autres, volontairement, construits comme ça. Et ça ne varie jamais. Donc, au bout d'un moment, voilà, j'y croyais, j'y ai cru une bonne partie du film. Et plus le film avançait, plus j'attendais le contrepoint, et je ne l'ai jamais eu.
Mais t'as dormi,
Stéphane.
En tout cas, il ne m'a pas touché.
Pour moi, ce qui est évident, sans spoiler forcément, c'est qu'on parle d'un film qui part donc d'une situation. Entre guillemets, un après-midi de chien où les mecs sont enfermés dans un endroit et il se trouve en plus que le bar existe vraiment, en fait c'est le bar en bas de leur rue.
Oui, c'est le bar où ils vont.
Ouais, c'est le bar où ils vont bouffer, donc ils l'ont reconstruit pour le film, mais voilà. Et je pense que certains personnages sont clairement repris inspirés du réel.
Des calqués du réel.
Et l'idée, c'est de partir de cette situation un peu de huis clos tendu pour basculer dans le film d'horreur pur, c'est-à-dire que c'est même plus qu'une question de survival, c'est le film d'horreur et ce que tu dis là, la raison plus ou moins
la menace
précisée, en fait c'est une menace de film d'horreur pour moi.
Voilà,
donc pour revenir sur ce que tu disais aussi sur l'humanité, moi ce que j'adore, c'est très vrai ce que tu disais sur la bascule émotionnelle, Alex de l'Iglesia, c'est un cynique qui voudrait être un mec pur. Et c'est un mec pur qui voudrait être un cynique. Donc en fait, c'est un mec qui est extrêmement. Il y a lui, il y a son scénariste aussi, il faut pas l'oublier.
Jorge Gerica Echevarria.
Gerica Echevarria, tout à fait, ouais. Qui sont à mon avis, un binôme très intéressant parce qu'ils doivent vraiment se compléter en fait. Il y en a un qui est vraiment fou et l'autre qui est beaucoup plus structuré. Et je pense que c'est Alex de l'Iglesia le fou, mais voilà. mais pas forcément en fait. Enfin, ça dépend.
C'est
ça
des dépend rôles vrai, quoi, voilà.
Et le truc, c'est que. Le truc, c'est que moi je suis pas d'accord par contre avec Yannick sur le fait que ça n'est pas dans le film, ça est dans le film par exemple. C'est compliqué de spoiler ça parce que ça arrive assez tardivement. Non, mais ça arrive tardivement dans le film, mais il y a ce personnage en fait qui tente de tuer quelqu'un et qui en fait bascule. Voilà.
Il n'a jamais l'impact émotionnel qu'a ce type de scène là dans les autres films de La Iglesia. Même son film là dont je me rappelle pas le titre, avec le mec qui est piégé au niveau du pied près d'un musée.
Chispa della Vida.
De la Vida, où pendant tout le film t'as cette satire des médias et la bascule arrive quasiment au plan final. Ouais. Mais elle arrive et elle est puissante. Là, moi, ça m'est passé comme ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Le truc, c'est que ce qui est certain en fait depuis Balada Triste. Et ça, je pense que c'est lié à son divorce, en fait. C'est qu'il a perdu une logique. Non, il a perdu une logique de structure et il a foncé un peu dans une espèce de logique misanthrope beaucoup plus prononcée, en fait. Et quand je dis que c'est un cynique, en fait, qui veut être pur et un pur qui voudrait être un cynique, en fait, c'est que c'est quelqu'un qui aborde les gens, et c'est le cas encore une fois aujourd'hui sur ce film, tu vois. Qui aborde les gens en fait toujours de manière détournée, c'est-à-dire que quand il fait de la SF avec Action Mutante, il est obligé de mettre de la comédie et pas de la comédie grasse, mais de la comédie, de la satire et du
burlesque.
Satire méchante, ouais, et une grosse dose d'humour noir en fait. Quand c'est le jour de la bête, bon, c'est assez évident parce que c'est un film d'horreur aussi, mais c'est clairement, enfin, c'est pas un film d'horreur pur non plus. Donc voilà, quand il s'attaque à tous ces films, le western avec Perita Durango, enfin. Et 800 balles évidemment. Quand il fait tous ces trucs là, le thriller hitchcockien, il y a une logique où moi j'en ai souvent parlé avec lui en fait en interview, et il m'a souvent dit ça me fait chier de pas être capable de faire, à l'époque on parlait du crime farpé de 800 balles, ça me fait chier de pas pouvoir faire un vrai western, ça me fait chier de pas pouvoir être capable de faire les gens qui font ça sont meilleurs que moi parce qu'ils sont capables de tenir la distance, c'est sa logique. Et il l'a fait un film d'horreur pur, un thriller pur en fait, qui est totalement méconnu.
La chambre du fils.
La chambre du fils, voilà.
Qui était un téléfilm
en fait, qui faisait partie d'une série un peu...
L'habitation del Niño.
Voilà, l'habitation del Niño. Películas para no dormir. Et en fait, c'est sorti chez nous en vidéo, mais certaines n'ont même pas été diffusées en Espagne, j'ai appris récemment en fait. Donc c'est un truc qui est vraiment très peu connu en fait. Il y a celui d'Alex de l'Iglesia qui est sorti, il y a celui de Balaguero qui est sorti aussi, qui est passé à la télé, et en fait les autres ne sont pas passés. Et il y a, je crois, Enrique Urbizu, des mecs comme ça. Et le truc, c'est que en fait, voilà, c'est pour moi en fait, ce qui est évident, c'est que En dehors de ça, en dehors de Crime à Oxford, qui moi je trouvais raté, parce que c'est vraiment une tentative de draguer le spectateur international, qui fonctionne pas pour moi, parce que c'est là où il y a un vrai côté cynique en fait, qui est pas assumé en fait dans ce film-là. En dehors de la chambre du fils, tout ça, c'est ce qu'il arrive à faire de plus proche en fait quand il fait la deuxième partie de d'Elbar en fait. On va oublier le titre français qui est complètement ridicule,
pris au
parce
piège.
Que ça c'est vraiment t'as l'impression de voir ça, un Steven Seagal quoi, en TV quoi.
Et alors mais...
Non mais voilà,
il a fait piège à haute pression.
On est quand même dans un autre truc quoi.
C'est pas mal.
Et c'est ce qui se rapproche de plus de ça, c'est-à-dire l'idée de faire un film d'horreur pur, un microcosme en l'occurrence du monde dans le bar, tu vois, et de partir dans cette logique hyper misanthrope en fait, vraiment il y a ça, et je pense que moi j'ai ces touches d'humanité ici et là. Moi le problème que j'ai avec le film, qui est pas un énorme problème mais qui est un problème plus contextuel en fait, c'est dommage, j'ai l'impression que c'est dommage, parce que même quelqu'un comme Alex de Legazec a des gros succès en Espagne, qui est un réalisateur reconnu, qui préside au Goya, hein, je veux dire, c'est comme si je sais pas, moi chez nous c'était Yann Koulen qui présidait au Goya, j'en sais rien, ou je sais pas quel réalisateur, tu vois, un peu en marge, tu vois, supposément en marge, tu vois, voilà, c'est un mec qui est reconnu. C'est dommage qu'il se retrouve à faire des films qui ont de plus en moins de budget en fait, voilà. Et quand tu sais que Zugarramurdi par exemple c'est un budget de 4 millions d'euros, et que tu vois tout ce qu'il y a à l'écran, celui-là tu te dis par rapport à ce qu'ils ont fait, à mon avis ils ont très très peu, ils ont vraiment, ça a dû être un budget à 2 millions 3 millions maximum en fait,
c'est
voilà.
Vrai que c'est dommage, hein,
et c'est dommage parce qu'ils tournent de plus en plus, c'est-à-dire là il a encore un autre film en tournage je crois, ou même terminé il me semble, et qui sort à Noël, c'est des films de moins en moins pas ambitieux visuellement, parce que c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il a ce métier, tu vois, mais c'est des films qui sont de plus en plus contenus en tout cas, et malheureusement, enfin pour moi l'une des qualités de Alex de l'Église, c'est aussi un metteur en scène visuel très 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 fort, et quand il a les moyens, bah ça donne des films comme Perdita Durango, ça donne des films comme qui vraiment, encore une fois, hein, je l'avais dit dans une reco, et c'est un film, si un jour vous avez l'occasion de le voir en salle, il faut le voir en salle, quoi, parce que c'est un putain de western moderne.
Quand il parle de peut-être le trauma entre guillemets de son divorce, me semble être une raison, pourquoi pas, par rapport à cette misanthropie qui du coup me semble assez évidente.
La misanthropie, elle est là depuis longtemps.
Elle est toujours contrebalancée. Ce mec a fait une des plus grandes scènes du monde. Mais je le dis, c'est la plus grande jouissance que j'ai eue au cinéma depuis longtemps, et vous pouvez foutre de ma gueule, et c'est à tous les niveaux.
Est-ce que c'était Hitchcock, hein?
Non, mais pas du tout, au contraire. Mais c'est... Oh, quoi que... Non, mais c'est cette scène de 800 balles avec ce gamin qui se retrouve dans le lit avec une nana absolument magnifique et qui... casse tous les codes de ce qu'on pourrait attendre à ce moment-là, et de cette nana qui enlève son soutien-gorge et qui lui dit « touche-moi le sein », et ce gamin qui est tout excité. Sur la vie, cette scène est un des trucs qui m'a le plus retourné la tête de l'histoire du Cinoche. Cette scène, je la regarde en boucle, je la trouve d'une humanité, et puis surtout d'une intelligence dans ce qu'elle traduit, qui est tellement le contrepoint de tout ce que Iglesias dans tous ses films charge comme une mule, qu'elle est cet instant de pureté rêvée et fantasmatique, et je la trouve incroyable. Et j'aimerais qu'il retrouve ça.
Mais
voilà.
Le truc, quand je parlais de son divorce, c'est plus par rapport à, par exemple, Zugarramurdi, c'est très difficile de pas le lire à travers cet axe-là, parce que c'est quand même un film qui est quand même faussement misogyne, et qui décolle sur ça à la base, c'est-à-dire la femme du personnage principal, je crois qu'il l'appelle le cancer ou le je sais plus quoi, le fléau, on est quand même en plein dedans, et je pense que c'est une façon d'exorciser ça. Mais bon, il faut rappeler un truc avec Alex de l'Iglesias, c'est que c'est un mec qui a grandi dans le franquisme en fait de l'Espagne, et qui a grandi dans cette Espagne complètement verrouillée par la dictature, qui en est sorti, dans les années 70, au milieu des années 70 en fait, et qui a dû se recréer à travers le régionalisme quoi.
Et lui, en fait, il est du Pays Basque, enfin il est de Bilbao.
Voilà, et Gerica Echevarria aussi. Et le truc, c'est qu'ils parlent fondamentalement de ça en permanence dans leur cinéma. Hein. Ils parlent de la façon dont aujourd'hui le pays est complètement disloqué par ce régionalisme-là aussi. C'est-à-dire que la liberté absolue au lendemain de la mort de Franco, en fait, c'est quelque chose en fait qui a plongé aussi le pays dans un abîme de doute en fait, qui font que il y a un vrai combat entre par exemple les Catalans qui sont persuadés qu'ils veulent vraiment sortir de l'Espagne, en fait, les Valenciens, les trucs et tout, et en fait du coup le Pays Basque évidemment, et du coup en fait c'est voilà, ils traitent de tous ces trucs là. Ils avaient un film en prévision sur les attentats sur le terrorisme dans le Pays Basque. Aujourd'hui à mon avis c'est impossible à faire quoi,
c'est très juste, c'est très très juste ce qu'il dit, et c'est d'autant plus énervant pour moi de voir, même si c'est un questionnement qui traverse tout le cinéma espagnol et qu'on peut voir chez de nombreux cinéastes sur des films que j'aime aussi énormément et qui éclate véritablement dans le cinéma d'Alex de la Iglesia, mais encore faut-il dépasser ce que les gens y voient habituellement, alors que c'est extrêmement présent et depuis très longtemps effectivement.
Et moi je pense aussi que c'est ce qui explique son côté double en fait, si tu veux, c'est-à-dire à la fois d'avoir envie de c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a grandi. L'attentat contre Franco qu'il montre dans Baladatrice, c'est quelque chose qu'il a grandi, qui s'est passé à quelques rues de chez lui. Donc en gros, et il avait 8, 9, 10 ans, et lui il décrit ça, même pas, il avait 7 ans, 8 ans, et il décrit ça comme le moment où il a compris la perte d'innocence totale en fait. Et du coup, en fait, quand tu grandis, je pense, avec cette espèce de logique, la pureté que tu recherches, tu peux pas vraiment l'avoir parce que tu sais que le monde est pourri quelque part, en fait, si tu veux. Et tu le sais à 8 ans, quoi. Donc, du coup, en fait, si tu veux, même si tu essayes de le chercher, même si tu essayes de le revendiquer dans ton cinéma, c'est pas possible. Et du coup, en fait, tous les trucs qui sont. Nous, alors, tu as parlé de Migrante Noche, mais il y a surtout, moi, je trouve ce film fondamental, extrêmement méconnu dans la carrière d'Alex de la Iglesia, qui est Muertos de Risa, qui parle de, de la télé espagnole dans les années 70, ça, il parle du franquisme, il parle de tous ces trucs-là, etc., etc. Et montre l'envers du décor. C'est deux comiques extrêmement populaires dont le seul ressort comique, en fait, c'est de se foutre des baffes sur la gueule, ok. Et il se trouve que ils se détestaient. Et du coup, ils ont toute l'idée derrière le film, en fait, c'est de montrer en fait ces deux frères ennemis qui sont liés par le succès de leur duo. Et qui cherche à vraiment s'entretuer et que le public ne voit pas ça en fait. C'est-à-dire que voilà. Ça se termine par un plan, moi je trouve absolument incroyable, d'une pureté narrative absolue, quoi. Où ils arrivent à un tel point d'entretuer, qu'ils se retrouvent dans le lit d'hôpital à l'article de la mort. Et il y en a un dont le plat commence à être plat, et le deuxième qui se lève et qui met une baffe au premier pour faire redémarrer pour le maintenir en vie, quoi. Parce qu'ils ont besoin d'eux, c'est leur vie, ils peuvent pas en fait, ils se détestent mais ils sont obligés de vivre ensemble, parce que sinon ça marche plus, quoi. Et ça, je pense que c'est comme le plan final de Baladatrice, quand elle se jette dans le vide et qu'elle est ce désir absolu que tout le monde essaye de s'arracher, cette pureté, cette beauté. C'est l'Espagne, quoi, qui est complètement disloquée, littéralement disloquée, symboliquement, en fait, dans le saut final, en fait. C'est-à-dire le saut, littéralement, ça se passe encore une fois, enfin, je veux dire, c'est là, hein, le franquisme, c'est à cette époque-là, dans le film, tu vois. Et voilà, en fait, c'est quelque chose qui le travaille énormément. On a parlé pendant longtemps, dans les années 90, on parlait des cinéastes de Hong Kong qui avaient la trouille de la rétrocession à la Chine, etc., etc. Mais voilà, t'as ce truc aussi chez les cinéastes espagnols, et particulièrement chez Alex de la Iglesia. Et c'est pour ça, à mon avis, que même si tout ça c'est très symbolique et que c'est très masqué dans des histoires assez baroques et folles,
pas tant que ça, tu vois, Mes chers voisins était un symbole assez évident de ça.
T'auras toujours un personnage moins là-dedans
Moins fait de manière moins subtile que Muertos de Risa, mais ça y est quand même dans la plupart de
ça y est, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est ce qui fait que les gens aussi adhèrent au truc, et c'est comme Torrente en fait, c'est-à-dire la comédie Torrente qui n'a rien à voir avec ça, Alex de la Iglesia, la comédie de Santiago Segura, c'est un personnage de franquiste qui a oublié qu'il est plus qu'il est plus sous la dictature. Donc c'est un personnage de gros con qui dégueulasse, regrette. Tu vois, et qui est limite à regretter le bon vieux temps, tu vois, et où on torturait les gauchos, quoi. Mais le truc, c'est une manière. C'est ce qui est très intéressant dans le cinéma espagnol, et ce que fait Alex de la Iglesia clairement, et ce qu'à mon avis il a vraiment poussé cette logique beaucoup plus loin qu'un Almodovar ou des mecs comme ça, c'est qu'il exorcise littéralement ça. En fait, l'exorcisme, c'est ce passé que nous en France par exemple on traite pas avec la collaboration de ces trucs là, et c'est ça qui est malheureux dans le cinéma.
Ça fait peut-être partie des faiblesses de Elbar, parce que il y a un truc, alors je sais pas si la comparaison avec Tim Burton est heureuse ou pas, mais souvent on disait Tim Burton c'est le cinéaste qui chérit les freaks, etc. et Della Iglesias, j'ai l'impression, et ça se retransmet dans les personnages finaux entre guillemets d'Elbar, donc ceux qui survivent, ceux qui sont peut-être les moins pires dans l'histoire, j'ai l'impression que c'est presque des gens plus normaux, des personnages plus, voilà, des jeunes urbains, etc., le hipster, la meuf bien apprêtée, etc., qui se retrouvent à être finalement les gens devant la scène et qui sont les moins détestables du film et qui survivent et qui...
Dans Crime and Perfecto, c'est un gros con, le mec.
Mais justement, Crime and Perfecto, c'était il y a 10 ans.
Ouais, mais il est que dans l'apparence, le type. C'est le tombeur, le macho latin de base. Qui se trouve à coquiner, c'est pareil, il est génial. Le mec, le macho tombeur de base, qui se retrouve à coquiner avec une nana qui est moche.
Ce film, je pense que c'est son
pire cauchemar, quoi.
Non, juste pour finir sur ça, sur Elbar, j'ai l'impression que c'est ces personnages-là qu'il aimait beaucoup, ils appellent ça, je crois, les freakies, un peu une hispanisation du terme
c'est
freak.
Freakies en espagnol, voilà. C'est les geeks.
Dans Elbar, j'ai l'impression qu'il s'en éloigne un petit peu. Voilà, c'est tout. Et ça,
Il
les laisse dans la cave, littéralement.
Eh bien, ne restez pas dans votre cave. Sortez de la cave et regardez tous les films d'Alex de la Iglesia si vous n'avez pas eu l'occasion. Et regardez notamment Elbar, qui est donc disponible depuis peu en VOD. On se retrouve à la rentrée. Notre temps est écoulé. Merci à tous les trois. Merci à Jules à la technique. Merci à l'antenne, pareil, pour l'accueil. Rendez-vous sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos émissions, le programme des prochaines, les dates d'enregistrement public si vous voulez venir nous voir. Info à retrouver aussi sur binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio. Et puis, on vous dit à très vite.
Salut, c'est Mehdi Maizy, retrouvez nos fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans nos fun.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.